Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux, c'est impressionnant. Donc ce soir, nous accueillons Bernard Werber, que nous remercions également d'être dans nos murs. Donc ça va se dérouler de cette façon. On va commencer par échanger un petit peu autour de son dernier livre et puis en général. Et après, il va avoir un temps libre pour vos questions. Et enfin, évidemment, les dédicaces que j'imagine vous attendez avec impatience. Voilà. Alors, bonsoir Bernard Werber, on va repartir de mon pied. Ce soir, donc, pour tous ceux qui n'ont pas été sur Terre ces 20 dernières années, nous recevons l'un des auteurs français les plus lus, et ça se chiffre en millions, et surtout peut-être un des plus exportés, des plus traduits, puisque je crois que chaque roman est traduit dans près d'une quarantaine de langues. Ce soir...
Je ne sais pas, hein. Je fais confiance.
Ce soir, vous venez nous parler du dernier opus qui est sorti en octobre, comme d'habitude, et qui s'appelle Troisième Humanité. Donc, dans Troisième Humanité, pour en dire juste un mot sans trop en dévoiler pour les peut-être un ou deux qui ne l'ont pas lu encore, vous partez cette fois-ci après les fourmis, après les anges, après les dieux. Vous portez le regard sur notre Terre, vous lui donnez une voix et une conscience, et vous la faites parler de nous et de la façon dont elle nous voit. Et on peut dire qu'elle n'est pas, pas ravie de la façon dont on la traite, cette Terre.
Ouais.
Merci beaucoup.
Oui, il faut que je développe.
C'est-à-dire que, en fait, je trouvais qu'en lisant le livre, au fur et à mesure que je lisais le livre, je trouvais qu'il y avait une certaine filiation, justement, donc, comme je disais, avec les fourmis et puis avec les anges et les dieux. C'est justement sur cette façon de reporter encore une fois le regard sur un autre acteur qui nous voit. Alors là, pour le coup, après les anges qui nous voyaient de l'extérieur, là, c'est au plus près de nous. Mais voilà, donc je sentais une filiation, une espèce d'œuvre globale.
Ouais. c'est pas faux.
Je vais être très aidée.
Non, oui, non, c'est... Je sais pas, d'abord, est-ce que je parle assez fort, là, si je marmonne comme ça, ça va? Derrière, ça entend? Oui? Ouais. Pas trop? Bon, il va falloir que j'articule, alors. Oh, zut. J'attends que tout le monde soit stabilisé. Le travail du romancier, enfin, mon travail de romancier, me semble être de poser, comme vous disiez, la caméra dans des endroits un peu originaux. Donc, vu que la plupart des romans, c'est des gens qui parlent d'autres gens, en général, qu'il y a deux types de romans, ceux où il y a une histoire d'amour, ceux où il y a un meurtre. Bon, ça définit plein de choses. Puis après, il y a les trucs philosophique, enfin, ou les essais, on va dire, je me suis dit comment arriver à renouveler un peu le sujet, c'est-à-dire, même si je mets des histoires d'amour et des meurtres, parler d'autres choses. Je pensais que la meilleure manière de renouveler le sujet, c'était de mettre la caméra dans un nouvel endroit. Donc, au lieu de la mettre à hauteur Dieu d'humain, regardant des humains, je l'ai mis à l'intérieur de la Terre. Et donc c'est la Terre qui pense, qui parle et qui évoque notre existence de son point de vue. Et dans son point de vue, nous sommes une espèce très jeune et une espèce sur laquelle elle n'a pas réellement une opinion tranchée. La Terre a à peu près 4,7 milliards d'années. En fait, on n'est pas sûr du tout. C'est le genre de choses qui sont sur Internet et dans tous les livres, mais en fait, c'est comme l'histoire de l'univers, on ne sait pas vraiment. Il y a trois choses qu'on ne sait pas et qui sont malgré tout signalées partout. Petite parenthèse. La première, c'est quand c'est qu'est apparu l'univers. Alors on dit 15 ou 13 milliards d'années. Quand même à 2 milliards d'années près, je trouve que ça fait une différence. Ça veut dire surtout qu'on n'en sait rien. Bon, donc on va dire c'est au-delà de 10 milliards d'années. On ne sait pas réellement l'âge de la Terre, mais là on est un peu plus proche. C'est entre 4, 5 et 5 milliards d'années. C'est donné pour 4,7 milliards d'années le plus souvent. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est quand c'est qu'est apparu le premier homme. Alors, c'est des choses que vous verrez dans les livres, il y a des dates, Mais vous verrez que dans certains endroits, il y a une date, dans d'autres endroits, il y en a d'autres. Parce que, par exemple, longtemps, on a cru que c'était Lucie, qui est à peu près à 3,5 millions d'années. Et puis, il y a un type qui s'appelle Brunet, qui a découvert un peu en dessous, on descend dans le sud, quelque chose à... Enfin, un être qui ressemble plus à un être humain que Lucie, et qui est daté de 5 millions d'années. Donc, moi, je dis 7 millions d'années au mieux. Donc, vu qu'il faut quand même pas arriver à parler malgré tout. Donc, l'univers, 13 milliards d'années. La Terre, 4,7 milliards d'années. Premier humain, 7 millions d'années. Ça veut dire que la Terre, elle a vécu longtemps sans nous. Et ça ne lui posait pas de réel problème. Si on devait regarder l'espèce qui a le plus vécu sur Terre, donc l'espèce qui mérite le plus le titre de terrien, de locataire occupant, vous voyez, comme dans un appartement, locataire qui occupe le plus cet appartement, ce sont les bactéries qui sont là depuis 250 millions d'années. Et les bactéries, on les sous-estime souvent parce que, vous savez, c'est le truc qui fait lever le pain, qui fait puer le fromage, qui fait qui fait avancer le vin aussi. Donc ici, je pense que ça a du sens. C'est ces trucs qui fermentent. Et les bactéries, en fait, ont une forme d'intelligence, ont une forme d'évolution, et il faut pas du tout les sous-estimer. Parce que c'était les premiers locataires avant même les formes, avant les insectes, avant les poissons, et ça sera probablement les derniers. Mais surtout, ça n'a rien à voir avec mon livre, je pars dans une autre direction. Mais dans mon livre, si j'en parle un peu des bactéries, mais je passe vite fait, c'est-à-dire la Terre se rappelle qu'il y a des bactéries. Mais non, parce que le sujet, vous allez voir, ça va être difficile de le rendre sexy quand même. Parce que j'ai deux bactéries qui se rencontrent, une grande histoire d'amour, un crime, bon, pour arriver à relancer le sujet. Non, les bactéries, il s'avère que longtemps, on les a subies et on ne savait pas trop comment faire. Et on a découvert les antibiotiques. Et les antibiotiques arrivent à nous protéger des bactéries tueuses, enfin, ces petits microbes, comme on dit, microbes, c'est petite vie, petite forme de vie. Mais il s'avère qu'ils sont en train de muter. Et plus ça va, plus ils résistent aux antibiotiques. Alors nous sommes la génération qui a de la chance. Parce que quand on a un problème, on prend les antibiotiques, ça nous arrange la santé. Mais il est probable que la prochaine génération, quand elle aura les mêmes problèmes, qu'elle prend des antibiotiques, ça ne fera plus rien. Vous savez, les publicités, les antibiotiques, il ne faut pas en prendre trop. Mais en fait, c'est un combat beaucoup plus vaste que ça, qui est entre l'homme et une forme de vie très ancienne, qui n'arrête pas de muter et qui a une forme d'intelligence. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et je crois qu'il y a, je regardais par hasard un documentaire, ça n'a rien à voir avec mon bouquin, mais, sur les staphylocoques dorés. Et ils expliquaient dans ce documentaire que le staphylocoque doré, actuellement, si vous l'avez, ben normalement vous êtes foutus parce qu'on ne sait pas comment les contrer. Alors ils vont ressortir des vieux antibiotiques qu'ils testent, ces antibiotiques qui par moments font autant de mal qu'ils font de bien, mais ils ont l'avantage d'arriver à contrer les staphylocoques dorés. Mais staphylocoque doré, c'est un être qui, quand on lui met un antibiotique, l'antibiotique va le tuer à 90%, les 10% vont faire des tas de formes d'expériences différentes pour essayer de s'adapter. Et celui qui trouvera la formule qui adapte l'antibiotique, il va se reproduire. Ce qui veut dire que pour nous, c'est foutu. Donc, je vous disais, on est la génération sympa. On va profiter des antibiotiques. Et on n'a pas encore les staphylocoques dorés tueurs. Mais si je vous parlais de ça, même si ce n'est pas le thème du tout de mon livre, c'est pour vous dire que la vie a une aventure. La Terre a une aventure. Les micro-organismes sont un premier épisode de cette aventure. Et nous sommes, de manière très prétentieuse, le dernier épisode, en tout cas dans le temps, le dernier épisode intéressant de l'aventure de la vie. Et donc déjà, je voulais rappeler ça. Nous sommes des locataires récents, jeunes, et je crois que l'aventure humaine ne fait que commencer. Alors nous, on a l'impression que toute l'histoire est derrière nous, parce qu'on regarde ça de notre point de vue d'humain de l'an 2012, mais il faudrait imaginer qu'en fait, notre espèce peut peut-être tenir 2 ou 3 millions d'années. 2 ou 3 millions d'années encore, ce qui ferait une espèce à 10 millions d'années, c'est assez banal, hein, c'est par rapport aux espèces vivantes. Alors qu'est-ce que nous serons dans 2 ou 3 millions d'années? Déjà, on se demande que, est-ce que le 21 décembre, ça ne va pas être la fin du monde. Alors, dans 2 ou 3 millions d'années, la plupart d'entre nous, on se dit, on ne peut pas aller si loin. Au mieux, on regarde dans 10 ans. On regarde nos enfants, on se dit, bon, bah, eux, ils seront grands. Et si on a, pour ceux qui sont grands-parents, on se dit, bon, bah, c'est les petits-enfants qui seront grands. On a une vision globale de 100 ans. On s'autorise à avoir une vision de 100 ans. Moi, ça m'amusait de me dire d'abord, nous pouvons plonger notre mémoire dans celle de la Terre, donc se dire, nous sommes issus de 4,7 milliards d'années d'expérience sur cet endroit-là qui est la Terre, et nous allons peut-être avoir 2, 3, 10, 20, 20 millions d'années encore d'existence, et à ce moment-là, qu'est-ce que nous serons ? Est-ce que nous aurons encore... Je pense qu'il n'y aura plus de lunettes, déjà. Je vois des gens avec des lunettes. Il y a des choses qui probablement vont disparaître. Nous n'aurons plus probablement de dents de sagesse. Nous n'aurons plus peut-être le petit orteil aussi, qui paraît, ne sert plus à grand-chose, même s'il est bien pour marcher. Mais il y a probablement même beaucoup de choses qui vont changer dans notre physique. Moi, j'ai essayé de regarder une espèce ancienne, au hasard, celle que je connais le mieux, à savoir les fourmis, qui a 120 millions d'années. Et je me suis dit, bon, notre espèce de 7 millions d'années regarde l'espèce de 120 millions d'années. Et celle de 120 millions d'années a fait trois choix qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le rapetissement. Le deuxième, c'est la féminité. Et le troisième, c'est la solidarité. Là, au moins, on est en plein dans le livre, enfin, après avoir fait une petite boucle. Donc si après vous voulez poser des questions, ça va être les trois thèmes axes du roman. Donc, même si actuellement tous les systèmes d'analyse de l'humain constatent que nous n'arrêtons pas de grandir. Vous savez pourquoi nous grandissons ? Ceux qui ont lu le livre le savent, les autres, je vous le spoil un peu, mais vous le savez déjà, si. Parce qu'en fait, nos enfants sont mieux nourris. Et surtout, ils sont nourris avec des produits laitiers. Et les produits laitiers, c'est bon pour les os. Et du coup, la prochaine génération, parce que les générations sont de mieux en mieux nourries, devrait être encore plus grande que la nôtre. Donc, on assiste à une montée des tailles. Et notamment, petite parenthèse aussi, je ne sais pas, j'ai combien de temps pour dire des bêtises encore ?
Allez-y, vous pouvez vous lâcher. Bon.
Au Japon, ils ne mangeaient pas de produits laitiers parce qu'en fait, ils n'ont pas les enzymes pour digérer le lait. Ni le vin, d'ailleurs, ça les rend tout rouges. C'est assez marrant, pour ceux qui ont été au Japon. Vous en avez du vin, enfin, le cognac, notamment. Ces alcools de riz qui passent bien. Bon. Enfin, ils n'ont pas les enzymes. On en revient encore à ces histoires de bactéries. Ah tiens, petite parenthèse. Autre parenthèse. On a plus de bactéries à l'intérieur de notre corps que de cellules de notre organisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de tas de petites choses qu'on oublie souvent. L'essentiel, c'est dans les intestins, c'est explique le phénomène de fermentation finale. Mais il y a plus de cellules de bactéries dans notre corps que de cellules de notre organisme. Ce qui montre que vraiment, c'est un sujet, je ne le traiterai pas parce que je viens de tout vous raconter là d'un coup, mais les bactéries, les formes de vie, les microscopiques, c'est vraiment un domaine inconnu et passionnant. Donc je ne sais plus où j'en étais. Oui, on est au Japon, ils sont en train de grandir parce qu'ils prennent des produits laitiers. Il y a Yoplait, il y a Danone qui sont installés là-bas. Ils leur fournissent nos bons yaourts français. Et ils sont, on s'aperçoit qu'ils grandissent. Donc, par rapport à cette première phrase, je vous ai dit, l'humanité va devenir plus petite. Ça a l'air contraire à tout ce que prévoient les scientifiques. Mais je vous explique pourquoi j'ai choisi cette première idée, pourquoi on va devenir plus petit. C'est parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, la nature, la Terre, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, fonctionne de la manière suivante, si on regarde en arrière, c'est que ça fait réduire de taille les espèces qui posent problème. Donc c'est pour ça que les dinosaures sont devenus des lézards, c'est pour ça que les mammouths sont devenus des éléphants, c'est pour ça que les libellules qui avaient 2 mètres d'envergure font 20 cm, et les fourmis, il y a toutes les tailles. Bon alors 15. Et les fourmis étaient plus grandes aussi. Elles ont réduit de taille. Au fur et à mesure qu'elles ont évolué, elles ont réduit de taille. Et actuellement, les poissons sont en train de réduire de taille parce que l'eau est de plus en plus polluée. Et, Et la deuxième idée aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les morues avaient réduit de taille en Norvège pour pouvoir passer à travers les filets. Je raconte toujours les mêmes histoires, mais il y en a qui ne les connaissent pas aux infos.
C'est bon. Dans le vivant.
Mais moi, je la raconte aussi, parce que je la trouve quand même assez amusante. Et aussi, une autre adaptation de rapetissement actuellement auquel on assiste, c'est les cafards. Dans les cafards modernes sont de plus en plus petits pour pouvoir circuler dans les tuyaux. Et c'est pour ça que quand vous allez dans des pays d'Afrique ou d'Amérique centrale, les pays chauds quoi, et sauvages, vous découvrez des cafards qui ressemblent à des oiseaux, qui sont très gros, qui ont des ailes, qui font... Ceux qui ont été là-bas ont dû le voir. Et on se le prend dans la gueule, le cafard. Et on vous le sert au marché en général à bouffer. Et c'est des gros trucs. Et on se dit, tiens, ça ressemble pas à nos petits cafards d'Europe. Mais en fait, c'est juste que les cafards d'Europe avaient cette taille-là. Mais ils se sont adaptés pour pouvoir passer dans les tuyaux et remonter dans les éviers pour arriver dans votre cuisine. Donc, c'est une adaptation. Et ils ont perdu les ailes parce que ça leur servait plus à rien. Parce que quand ils volaient, ça faisait en général prendre une pantoufle dans la gueule. Ils se sont dit sur plusieurs générations. Donc, ils se sont dit, on va plutôt grouiller et se planquer dans les armoires. Ça va être plus rigolo. Donc, tout ça pour dire que le rapetissement est une forme d'évolution des espèces qui ont des problèmes. Jusque-là, nous n'avons pas eu tellement de problèmes. Alors ça vous sera dit nulle part, surtout pas aux actualités où on vous annonce tous les jours les problèmes qui arrivent. Mais si je regarde objectivement notre histoire, nous avons eu beaucoup d'aléas, d'épisodes, mais l'être humain en l'an 2012, vous, moi, nous vivons pas si mal que ça, dans un monde où, mine de rien, regardez dehors, il fait froid, ici il fait chaud, dehors c'est sombre, ici c'est lumineux, et a priori vous avez tous mangé à votre faim. Donc, il n'y a personne d'affamé dans cette salle, ce qui montre déjà que nous sommes arrivés à assurer la protection contre la pluie, contre le froid, contre l'obscurité. Nous n'avons pas peur d'être attaqués par des lions ou des léopards quand on se promène dans Bordeaux, ni des loups, ni des ours, c'est plutôt des animaux d'espèce. Donc, on est devenu le super prédateur, ce qui est une réussite d'espèce. On arrive à gérer le problème du froid, le problème de la nourriture, et en plus, on est de plus en plus nombreux. Donc globalement, on pourrait dire qu'on est une espèce qui, même si elle est tout le temps en train de s'apercevoir qu'il y a des trucs qui ne vont pas, a réussi. En plus, vous avez une espérance de vie qui est bien supérieure à celle de vos grands-parents. Je pense qu'en 1600, l'espérance de vie devait être autour de 50 ans. Moi, j'ai déjà passé 50 ans. Vous avez de fortes chances, pour les plus jeunes, de passer 50 ans aussi. Et normalement, notre espérance de vie pour notre génération est plutôt de l'ordre de 100 ans. Ce qui est quand même aussi un progrès. D'où l'apparition, d'ailleurs, petite parenthèse, de maladies comme Alzheimer, qui devaient être des maladies qui existaient déjà, mais seulement vu que les gens crevaient avant, ils n'avaient pas le temps de s'en apercevoir, tandis que nous, donc, on va vivre, mais c'est dans quel état, hein? Ça, c'est une autre question. Donc, je vais revenir chaque fois sur mon thème, parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Un, rapetissement de l'espèce. Deux, c'est un phénomène qui se passe quand l'espèce a des problèmes, mais nous n'avons pas de problème, c'est pour ça que nous grandissons. Nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes de plus en plus présents sur la Terre, nous la détruisons de plus en plus parce que nous savons de mieux en mieux l'utiliser. Et en fait, notre génération est une génération qui en profite un maximum parce que nous avons tout sans limite et sans aucun cadre qui nous empêche de continuer. On peut prendre de plus en plus de pétrole, on peut prendre de plus en plus de minerais, on peut détruire de plus en plus d'air et d'eau. Il n'y a pas un bon Dieu qui va arriver et nous dire si vous arrêtez pas, vous allez vous prendre une fessée. Donc on peut vraiment faire toutes les conneries qu'on veut. Et déjà, il faut déjà prendre conscience de ça. Parce que si, quand il y a des réunions, vous savez, pour réfléchir sur le climat et qu'au bout de ces réunions, il ne se passe rien, c'est parce qu'il n'y a aucune sanction. La Terre ne peut pas dire, écoutez les gars, arrêtez de me détruire les forêts, arrêtez de polluer ma mer, arrêtez de détruire l'air, parce que ça me fait mal, elle ne s'exprime pas. Donc c'est juste une sorte de prise de conscience entre nous, et actuellement, si je suis les actualités, ce qui se passe, c'est que les pays dits émergents disent, on ne voit pas de quel droit vous devrez nous empêcher de polluer, parce que vous avez pollué dans le passé, on ne vous a rien dit, et maintenant, vous nous empêchez de polluer dans le présent, parce que vous avez des états d'âme écologistes. Je trouve que c'est un tout petit peu malhonnête comme système, parce que ça veut dire, en gros, que certains s'autorisent à faire une connerie parce que d'autres l'ont déjà fait avant. On n'est pas prêt d'avancer à ce moment-là. Donc, il y a un moment où il faut se dire, OK, on va oublier les pays, on va oublier l'histoire, on va oublier la colonisation, tous ces trucs, on va juste se dire, on est 7 milliards d'êtres humains, dans un seul pays qu'on appelle la Terre. Et c'est ce pays qu'on appelle la Terre qu'on va soigner. Et le fait que certains pays qui ont une histoire qui font qu'ils ont démarré plus tard, ça n'a pas rentré en ligne de compte. De toute façon, la Terre, elle n'a rien à foutre que dans, derrière une rivière, on parle une langue, et dans, derrière l'autre bord de la rivière, on parle une autre langue. Et qu'en plus, la raison pour laquelle les pays ont été créés, en général, c'est des guerres. C'est-à-dire, il y a des types qui se sont foutus sur la gueule, nos ancêtres. Et à un moment, il y a un type très très méchant qui est arrivé pour envahir une zone. Il a été arrêté pour un autre type très méchant. Ils ont dit, OK, la montagne, c'est notre limite. Là, c'est chez vous, là, c'est chez nous. Et après, les enfants n'ont jamais contesté cette limite. Ou ils l'ont contesté, mais toujours dit, on arrive aux frontières actuelles. Mais c'est complètement artificiel. C'est une convention entre humains. On est d'accord. Donc, tous ces trucs de pays qui ont le droit de polluer, de payer, c'est débile. Pour donner un exemple, je parle pas trop vite là, parce que par moment, je parle comme j'écris et je fonce un peu. Imaginons que, ma tête est la Terre. Si, alors, imaginons que ma tête est la Terre et que dans mes cheveux, il y a des poux. Okay, ces poux, ils prennent mon sang, ils sont comme des vampires, donc comme nous comportons avec la Terre. Et moi, je ne me dis pas, tiens, il y a les poux qui sont dans cette zone de mes cheveux, qui sont en conflit avec les poux là-dessus. Donc, si jamais je me donne des tapes ici ou si je mets du shampoing ici, j'avantage cela. J'ai rien à foutre. Je me dis juste, j'ai plus envie d'avoir des poux dans mes cheveux. Vous comprenez ? Mais c'est comme ça que résonne ma Terre dans la troisième humanité. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à cirer des pays, des conventions et des trucs de Rio de Janeiro dans lequel il y a les Chinois qui disent qu'ils veulent polluer parce que, voilà, hein. C'est juste des humains qui sont en train de détruire ses arbres, de souiller son eau, souiller l'air. Et elle a juste envie de dire, calmez-vous.
Mais il y a un peu de mauvaise foi de la part de votre terre, là, alors. Parce que
évidemment, de ma propre part aussi.
C'est quand même elle qui les a créés, ces êtres-là.
Alors,
pour répondre à une peur à elle, en plus.
Voilà. Alors, l'idée du roman, parce que d'abord, je voulais pas d'une terre trop sympa, parce que sinon, ça allait faire moraliste. Donc, je l'ai mis un peu responsable de notre création. C'est-à-dire, j'ai imaginé que la Terre a voulu une espèce intelligente, nous a voulu, pour un projet personnel qui la concerne à elle, mais que nous percevons mal, c'est elle a peur des astéroïdes. Parce que le prédateur des planètes, c'est les astéroïdes. Et donc, j'ai imaginé qu'elle avait inventé la vie, qu'elle avait inventé l'intelligence, qu'elle avait inventé la conscience pour arriver à notre espèce qui fabrique des fusées qui pourraient détruire les astéroïdes avant qu'elle la touche. Ça, c'est juste en me mettant à la place de la Terre, je trouve cette idée. Mais alors, j'ai terminé sur l'autre idée. Au-delà des poux qui sont dans mes cheveux ou dans vos cheveux, l'autre idée, ça serait des puces qui sont sur un chien. Le chien, quand il se gratte, parce qu'il a des puces, et il se dit pas, je vais gratter qu'un seul côté et que ce groupe de puces, parce que celle-là m'embête, parce qu'elles ont telle tête. Il gratte, il veut se virer toutes les puces. Alors, j'imaginais que la Terre, quand elle fait des tremblements de terre, ou quand il y a des typhons, quand il y a des tsunamis, quand il y a Fukushima, c'est juste, elle dit, ça me gratte, hop, je me secoue, je m'ébroue, et tant pis, si vous crevez, de toute façon, rien à foutre des humains, des tout petits trucs qui sont sur sa surface. Donc il y avait cette idée déjà de nous resituer comme une espèce parasite, une espèce locataire, et une espèce qui n'a aucun droit sur cette planète parce que nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, même si nous comportons comme une sorte de réserve de tout ce qu'on veut, de matières premières, d'animaux, d'énergie, et on prend sans dire merci, sans dire s'il vous plaît, et une fois qu'on a fini d'en prendre, on se dit chouette, on a trouvé un nouveau gisement de pétrole, chouette, on est arrivé à trouver de nouveaux... Vous savez, je raconte dans le livre, en Turquie, il y a des endroits, il y a des montagnes, ils dynamitent tout pour récupérer le charbon, il y avait une montagne, il n'y en a plus. Alors, je pense que pour la planète, ça ne lui fait pas très plaisir. De même que je pense que le fait de prendre le pétrole, ce n'est pas du tout anodin. Il y a, à mon avis, mais c'est une intuition perso qui n'est pas corroborée du tout par les scientifiques, mais s'il y a autant de tremblements de terre, c'est lié au fait qu'on est en train de vider le pétrole et que ça crée des dépressions. En fait, quand on enlève le pétrole des nappes pétrolières, on le remplace par de l'eau de mer. C'est-à-dire, ils ont compris quand même, les mecs, que si y a un grand lac et on vire tout le liquide, le truc va s'effondrer. Donc, on met de l'eau. Mais l'eau n'a pas la même réaction que le pétrole. Pour reprendre l'exemple donc des petits parasites, des puces, hein, ils ont des puces. Imaginez, les puces, elles vous sucent votre sang, d'accord? Mais vu qu'elles ont compris que sucer votre sang, ça pouvait vous agacer, elles vous remplacent votre sang par l'eau de mer. Ça va quand même vous irriter un tout petit peu la peau. Vous voyez, ça, c'est pour visualiser un tout petit peu l'idée. Bon, alors c'est tout cet ensemble d'idées qui a légitimé un peu le roman. Alors, vous me disiez, elle est responsable de ça, qu'elle a mauvaise foi.
Dans le roman, en tout cas.
Oui, la Terre, dans le roman, a peur des astéroïdes parce qu'elle a connu une expérience terrible. Et alors ça, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo, mais il est arrivé un truc terrible à la Terre. Ça s'est passé... Donc, si la Terre a 4,7 milliards d'années... Je donne les vrais chiffres dedans, mais de tête, je crois que c'est à 4,5 milliards d'années. Il est arrivé un astéroïde qui a frappé la Terre et qui a arraché toute la couche supérieure, mais qui a été aspiré par la gravité. Et donc, ça a fait comme une pomme qu'on épluche. Et c'est allé jusqu'à l'intérieur, jusqu'au magma. Il y a des éjections de magma. Et cet astéroïde avait la taille de Mars. Donc, c'était un gros astéroïde. Cette expérience... pour ceux qui ont lu le roman, vous le savez déjà, mais pour les autres, je vous le livre quand même, a donné une masse de débris énorme, qui était le mélange de l'astéroïde, plus des bouts de terre arrachés. Et ces débris ont formé une collerette autour de la Terre, ce qui fait qu'à un moment, à cette époque-là, la Terre ressemble à Saturne. Il y avait la Terre et des tas de merde tout autour, qui étaient le résultat de ce choc avec l'astéroïde. Et avec le temps, parce que 4,5 milliards d'années, c'est quand même beaucoup, toutes ces petits détritus ont fini par se tasser, parce qu'ils étaient aussi par rapport à la bonne distance, par rapport à la planète, et ça a fait une boule, et cette boule, ça a donné, qui sait, la Lune. Et la Lune, qui nous semble quelque chose d'extraordinaire, est en fait une cicatrice. C'est un gros gratouillis, c'est comme si vous avez été blessé, vous avez gratté la cicatrice, vous avez fait une petite boulette, et la boulette tourne autour de vous. Voilà, c'est la meilleure représentation que je peux avoir de la Lune. Et donc la Terre, ma Terre de Troisième Humanité, la Lune, c'est le souvenir d'une blessure. Et c'est le rappel qu'il faut trouver un moyen de se protéger pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. Et donc c'est pour ça qu'elle va inventer la vie, l'intelligence, la conscience, l'humanité, et qu'elle a un projet pour l'humanité qui est faire des fusées pour que ces fusées aillent détruire les astéroïdes. Donc, c'est pas qu'elle a mauvaise foi, c'est qu'elle gère son propre intérêt comme toute forme de vie, et toute forme de vie a un objectif, c'est perdurer et se reproduire. Alors la Terre a un problème, c'est qu'elle ne peut pas se reproduire parce qu'il n'y a pas d'autre planète avec lequel elle peut avoir une sexualité satisfaisante. Ça sera l'un des thèmes des prochains romans, c'est déjà écrit. Hein. Mais la Terre ne peut pas... donc elle est seule. Et ma Terre a une deuxième angoisse, c'est qu'elle pense qu'elle est la seule intelligente, vivante, consciente. Et cette angoisse l'amène à l'idée que si elle meurt... C'est pas seulement sa destruction qui est terrible, mais c'est aussi la destruction de toute forme de vie dans l'univers. C'est-à-dire qu'elle se perçoit comme si jamais il arrive une deuxième lune comme Mars qui me détruit et qui me détruit entièrement, ce qui serait possible, à ce moment-là, il n'y aura plus rien. Mais rien, rien, rien. Et cette idée est vraiment une idée vertigineuse pour la Terre, mais je vous l'offre aussi, c'est une idée vertigineuse pour nous. Parce que depuis le début, nous avons toujours considéré qu'il y a de la vie ailleurs. Maintenant, la vraie idée complètement folle, c'est « et s'il n'y avait pas du tout de vie ailleurs ?» S'il n'y avait la vie qu'ici. Il y a eu un accident unique, un accident non reproductible, parce qu'au centimètre près, au poids près, à la taille du soleil près, ça ne pouvait se faire que ici. Et si la vie est apparue ici et qu'elle apparaît nulle part ailleurs, ça veut dire que si la Terre est détruite, il n'y a plus rien. Alors vous me direz, c'est quoi un univers dans lequel il n'y a plus rien? Je vous laisse imaginer pour ce soir, c'est un univers où pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années, il y a juste des cailloux qui traînent dans le vide. So what? Et là, même, il n'y a pas de bactéries. C'est-à-dire, la bactérie que j'évoquais tout à l'heure, qui peut nous sembler une forme de vie primaire, s'il n'y a que du minéral, c'est quand même globalement décevant. Ou en tout cas, par rapport à nous qui avons conscience de ça, c'est un peu... Ça serait vraiment dommage. Et la Terre, elle pense ça aussi. Elle dit, un, je suis vivante. Deux, je suis arrivée à faire de la vie. Trois, j'ai envie de vivre longtemps et j'ai envie que cette vie évolue. Et c'est de là que part l'évolution. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de bouger, c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'avancer. C'est pour ça aussi que la Terre a fabriqué plusieurs espèces. Pourquoi ? Regarde, imaginons que nous soyons seuls sur Terre en tant qu'espèce vivante. On n'évoluerait pas, on n'aurait pas de prédateurs, on n'aurait pas de maladies, on n'aurait pas... On stagnerait. C'est une idée qui m'arrive en direct, au moment où je vous la donne. C'est, en fait, on a besoin des oiseaux, on a besoin des insectes, on a besoin de tous ces trucs qui nous semblent pas indispensables à notre vie, mais qui, quelque part, nous forcent à évoluer. D'ailleurs, l'un des éléments qui nous a le plus forcé à évoluer, ce sont les maladies. La peste, le choléra, des tas de trucs affreux qui ont dû faire énormément souffrir nos ancêtres, c'est ce qui nous a obligés à bouger, à changer nos gènes. Et je peux vous dire que normalement, si vous êtes vivant, c'est que vos ancêtres ont survécu à tout ça et que normalement, vous avez déjà des défenses contre la peste, le choléra.
Et la grippe.
Alors, pas toutes les formes de grippe. Parce que c'est... Dans mon livre, j'ai mis aussi la grippe parce que la grippe est une forme de prédateur de l'humain que nous ne savons pas encore gérer. Mais nous avons survécu à tout ça. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. J'essaie de vous raconter aussi des trucs qui ne sont pas dans le bouquin, parce que sinon, je ne vais pas vous tout déflorer. Un moment, on s'est aperçu que durant la grande grippe de 1920, certaines personnes avaient survécu, on ne savait pas pourquoi. Et on s'est aperçu que c'était, avec prédilection, des gens qui étaient des descendants de personnes qui avaient été en contact avec la grippe de 1600. Et parce qu'ils avaient, leur ancêtre était en contact avec la grippe de 1600, leurs ancêtres, qui ont été en contact mais qui ne sont pas morts, ont dû forcément développer des défenses, et ces défenses ont été transmises. Et donc, il y a parmi nous des gens qui ont une capacité à gérer la grippe bien plus forte que d'autres, parce que leurs ancêtres ont été en contact avec ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais en faire plein des parenthèses. Je me rappelle quand il y avait la grande angoisse de la grippe H1N1, on disait que les gens qui étaient vivants en 1968 avaient été en contact avec une forme de grippe qui les protégeait de la grippe AH1N1 telle qu'elle devait apparaître il y a deux ans, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'on a intérêt à être en contact avec la maladie et pas en crever, et là, à ce moment-là, on en sort beaucoup plus fort. C'est la fameuse phrase « ce qui vous tue pas vous rend plus fort ». Eh bien, c'est toute l'histoire de notre espèce. Et ceux qui ne sont pas en contact avec les maladies, vous avez plus de chances d'avoir un problème quand la grippe va revenir. Vous savez, c'est comme ces enfants qui ont la varicelle. Vous voyez, les enfants, c'est affreux, ils ont des boutons et tout, mais s'ils ne l'ont pas, ça va être un pépin pour quand ils seront plus grands. Donc ça, c'est des formes de lutte pour l'évolution de notre espèce, c'est comme ça qu'on mute. Mais tous les drames qui sont arrivés à nos ancêtres sont inscrits dans nos cellules, et ça veut dire que les solutions qu'ils ont trouvées sont aussi inscrites dans nos cellules. Et c'est pour ça que je vous disais que finalement, on a plutôt réussi, on est vivant, on occupe bien le terrain, on mange tous les jours, on a une espérance de vie de 100 ans, c'est quand même un relatif succès. Tu veux poser une question ?
Non, en fait, vous nous avez expliqué un petit peu l'idée du rétrécissement, mais la deuxième idée que...
Ah oui. C'est vrai. En fait, il me faudrait un tableau pour que je... bien. Le féminisme, la féminité. Tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une question toute bête. Vous répondez selon votre intuition. Qui sont des femmes et qui sont des hommes ? Alors, on va commencer par qui sont les femmes ? Vous pouvez lever la main ? Levez la main haut. Je vais voir s'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est tout. Qui sont les hommes ? Légère majorité de femmes, il me semble.
Légère.
Je dirais qu'on est dans du 60-40, là. Alors, pourquoi la féminité ? Pas seulement parce que donc on est du 60-40 aujourd'hui, donc j'ai plus de lectrices que de lecteurs, ce qui est un signe d'évolution de l'espèce, me lire. Pourquoi la féminité ? Parce que normalement, toutes les espèces qui ont des problèmes se féminisent. Alors, pourquoi? j'ai essayé de vous expliquer ça en première. Bon, je vais prendre un petit exemple. Il y en a plein, mais... vous savez qu'actuellement, il y a une baisse de spermatozoïdes chez les hommes. Si vous ne le savez pas, je vous le livre. Et pourquoi une baisse de spermatozoïdes? Alors, les explications sont diverses et variées. On parle de jeans. Si vous avez d'ailleurs des jeans trop serrés actuellement, profitez-en pour écarter les jambes et relâcher votre ceinture. On parle des produits métalliques dans le pain, dans le germe, dans le blé. On parle des ondes, des téléphones portables. En fait, je crois qu'on n'en sait rien. Mais en fait, c'est toutes les formes de pollution qui font que on a moins de sperme. Et on a moins de sperme, et il s'avère que le sperme qui transporte le code féminin XX est plus résistant que le sperme qui transporte le code masculin XY. Donc, quand tout le sperme se réduit, en fait, il y a plus de sperme féminin qui survit. Alors maintenant, il y a aussi autre chose. Il s'avère que au moment de l'escalade, les spermatozoïdes, quand ils rentrent dans le système et qu'ils font l'escalade, ceux qui sont féminins, ils sont un peu plus forts pour grimper que ceux qui sont masculins. Vous savez, il y a la course, nous sommes tous des gagnants, mais il y a plus de chances, et il y a de plus en plus de chances, parce que le phénomène va en augmentant, que les gamètes XX battent à la course les gamètes XY. D'ailleurs, à ce sujet, autre parenthèse, je vous donne un truc pour ceux qui ont envie d'être enceintes dans les minutes qui suivent. si vous voulez choisir le sexe de votre enfant, vous ne pouvez pas choisir d'avoir un garçon, mais vous pouvez choisir d'avoir une fille. Et je vous donne le truc très simple, mais je vois qu'il y en a qui approuvent, donc certains sont peut-être médecins ou connaissent ça. En fait, au pic d'ovulation de la femme, si le rapport a lieu à ce moment-là, il y a une chance sur deux d'avoir un garçon ou une fille. Mais tout ce qui est avant et après, ça augmente le nombre de chances d'avoir des filles. Tout simplement parce que les gamètes masculines sont plus fragiles que les gamètes féminines. Donc si vous voulez avoir un garçon, l'idéal c'est d'avoir le rapport le plus proche possible du pic de fécondation. Ça vous parle? Et ça, c'est pas un truc genre manger des poireaux ou manger du sel. Ça, c'est quelque chose de logique. Vous pouvez le voir sur Wikipédia ou sur, je sais pas quoi, sur Internet. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais donc, il y a une chance sur deux d'avoir un garçon un certain jour, et tous les autres jours, c'est une chance sur trois, une chance sur quatre, une chance sur cinq. Donc, en toute logique, il devrait y avoir de plus en plus de filles. Au moment où j'ai écrit les fourmis, j'avais écrit qu'il y avait 55% de femmes sur Terre et 45% d'hommes. Et c'était les chiffres de 1991. Et maintenant, si vous allez voir, je fais encore un petit détour, mais si vous allez voir ma feuille Wikipédia, il y a écrit que Bernard Werber raconte des erreurs scientifiques. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il dit qu'il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Or, il y a plus d'hommes sur Terre que de femmes. Tout simplement parce que maintenant, il y a plus d'hommes sur Terre que de femmes. Mais à l'époque où j'ai écrit le truc, c'était les bons chiffres. Mais vu qu'il n'y a pas de police de Wikipédia qui vérifie les trucs, ça reste... Hein. Vous y êtes? Ah bon, alors vous pouvez me corriger ça, parce que ça m'énerve. C'est évident, si on prend une information ancienne, à l'époque, c'était comme ça. Donc actuellement, on est plutôt de l'ordre de 55% d'hommes et 45% de femmes. Donc c'est vrai, ce chiffre a changé. Pourquoi? Pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que la biologie va pour qu'il y ait de plus en plus de femmes, mais les cultures, les traditions vont pour qu'il y ait de plus en plus d'hommes. Et donc, il y a trois zones, l'Inde, la Chine, l'Afrique, dans lesquelles il y a un culte des garçons plutôt que des filles, et on leur a donné l'échographie pour pouvoir voir le sexe des bébés, et quand c'est un petit garçon, ils le gardent, et quand c'est une petite fille, ils avortent. Donc c'est, vous savez, le fameux truc « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ben là, il y a une science qui est arrivée un peu trop tôt, et la conscience et les traditions, par contre, se sont maintenues. Ça fait un tel problème que j'ai vu ça en Chine, il y a des villages où il n'y a que des garçons, et les quelques filles, même si elles sont très moches et très bêtes, elles peuvent choisir qui elles veulent, parce qu'il y a un problème d'espèce. Et alors, on leur dit, attendez, arrêtez d'avorter et tout, mais va changer des milliers et des milliers d'années de tradition piège à con par rapport à ça. Donc je ne sais pas combien de temps il y a ce mauvais élan qui va mettre pour être rectifié, mais en tout cas, c'est un problème d'espèce. C'est-à-dire que nous luttons contre la nature avec des échographies et de l'avortement, qui sont quand même une manière stupide de ne pas accepter les prochaines générations. En tout cas, ça serait stupide, bon, si on est à 55-45, ça serait stupide qu'on continue à aller vers une masculinisation forcée de l'humanité, qui serait de toute façon contre nature. Donc, sur le court terme, nous devenons plus grands, devenons plus masculins. Et le troisième élément, nous devenons de moins en moins solidaires parce que c'est chacun sa gueule et puis qu'on voit que ça se complique, donc c'est de plus en plus chacun sa gueule. Et pourtant, dans mon bouquin, je dis le contraire. C'est-à-dire, je dis qu'on va être de plus en plus petit, je dis qu'on va être de plus en plus féminin et on va être de plus en plus solidaires. Et je me base sur quoi? Comme je vous l'ai dit, sur l'observation des fourmis. Et ce que je vous racontais tout à l'heure sur la masculinisation, le grandissement et l'égoïsme de l'humanité, ça me semble juste un épiphénomène de notre génération, de notre époque. Ça concerne, aller au mieux, 100 ou 200 ans, mais ça, c'est pas vraiment déterminant. Le sens logique, ce qui devrait revenir, le cap que prend le bateau humanité, ça doit être celui que je veux proposer. Et de toute façon, c'est le cap souhaitable. C'est le cap souhaitable, pour nos ans simples, c'est que... je vous dis, l'exemple des fourmis montre qu'elles sont adaptées à tous les milieux, elles vivent en écosystème adapté à la nature, c'est-à-dire qu'elles n'épuisent pas la nature, elles bougent les villes quand il n'y a plus de nourriture ou il n'y a plus suffisamment d'air ou de terre de qualité. Et ça devrait être vers ça qu'on devrait aller. Enfin, c'est cette humanité que j'appelle de mes souhaits, qui est une humanité plus harmonieuse, une humanité qui ne bloque pas, qui ne se crispe pas dans le virage. Vous savez, c'est comme ces gens en moto quand ça bascule, ils ne veulent pas basculer parce qu'ils se disent « Ah, mais on risque de tomber ». Non, il faut suivre le virage pour pouvoir justement avoir le maximum d'adhérence. Et bien là, nous, on est en train de se crisper, de refuser de suivre le virage, et du coup, on va aller vers un problème. Et ce problème, le premier endroit, je vous le dis au moment où je pense que ça va être, on va assister à une guerre sur le thème de la féminisation. Il y a actuellement... des lignes qui sont en train de se dessiner de conflits hommes-femmes. Alors, on les sent beaucoup moins en Europe qu'en Afrique, en Chine ou en Inde. Mais si vous voyez, pour ceux qui ont voyagé, quand on va là-bas, on s'aperçoit quand même, il y a des hommes, on dirait qu'ils ont peur des femmes, ils sont en train de les enfermer, ils sont en train de leur couper l'accès à l'éducation. Ils sont en train de retenir quelque chose qui leur fait peur. Et je crois que ça va leur péter dans la gueule. Alors maintenant, ça peut mettre 200 ans à leur péter dans la gueule, mais... il faut laisser les énergies circuler librement. J'avais une amie japonaise, alors je racontais un détail, encore une petite péripétie, et je me disais, j'étais surpris de voir la soumission des femmes japonaises qui, en gros, sont toujours d'accord avec les mecs. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des problèmes, des hommes qui ont des problèmes avec les femmes, je leur conseille d'aller au Japon. Même sur toute l'Asie, en général, les femmes sont d'accord tout le temps avec les types. Et du coup, c'est une sensation d'exotisme. On se dit, mais tiens, pourquoi on supporte... Mais en fait, donc cette jeune fille me disait, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elles sont éduquées pour être soumises à l'homme, en tant que phénomène d'attirance pour l'homme, c'est-à-dire pour avoir les types qu'elles veulent. Mais une fois qu'elles sont avec lui... et qu'il est bien agrippé, elle continue d'être soumise très longtemps, jusqu'au moment où le type n'est plus en force. C'est moins expliqué, c'est assez bizarre par rapport à notre esprit occidental, je ne savais pas ça avant. Et quand le type n'est plus en force, et qu'elle estime qu'il n'y a plus de risque, et ça peut arriver quand ils ont 80 ans et 90 ans, là, elle lui fait payer l'addition. Et le mec, il comprend. Il comprend sa douleur. Et là, les dernières années peuvent être très pénibles. C'est elle qui me raconte ça. Et elle était donc japonaise. Et elle me dit, c'est pour ça que les femmes japonaises sont soumises. C'est parce qu'elles savent qu'il y a un jour où elles vont avoir leur revanche. Et les mecs, eux, ils ne le savent pas. Alors, ils sont émerveillés. Ils se disent, chouette, elle fait la cuisine. Elle est tout le temps souriante, tout le temps d'accord, tout le temps sympa. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est juste une sorte d'énergie retenue qui va leur péter un jour dans la gueule. Donc finalement, les Français sont très bien parce qu'au moins, vous gérez en direct les problèmes. Vous n'avez pas d'addition. Quoique, certaines, les problèmes en direct, plus l'addition après. C'est une autre catégorie. Bon. En tout cas, au Japon, en Asie, il y a cette revanche des femmes qui va dans ce sens de... Il y a une ligne de conflit. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique. Quoique l'Afrique, j'ai malgré tout dire, l'Afrique du Nord, parce que les sociétés d'Afrique sub-équatoriale sont plutôt matriarcales de manière étonnante, même si elles ne sont pas assumées comme ça. J'ai vécu dans une tribu de Côte d'Ivoire et on m'avait collé un boy. On m'avait collé parce que moi, ça ne me venait pas l'idée d'avoir un boy. C'était il y a 30 ans. Et mon boy avait 10 femmes. Et il m'a dit, j'ai besoin que je travaille pour vous pour acheter la 11e. Et il me dit, la 11e, en fait, elle a été approuvée par les 10 premières. Alors tout ça, ça me semblait un peu exotique. C'est dès qu'on voyage, on découvre des trucs très rigolos qu'on ne voit pas ni à la télé. Et il m'a expliqué le système, en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un système aussi... Enfin, non, en Afrique sub-équatoriale, c'est pas aussi dur que ce que je vous évoquais en Asie. Donc, lui, il avait 11 femmes. Il a 10 femmes, et grâce à moi, il en a acheté une 11e. Et il m'expliquait que, par exemple, en fait, tout son argent, il le donne à sa première femme. Et c'est sa première femme qui lui donne de l'argent comme d'argent de poche à un enfant. Et là, pour acheter la 11e, en fait, il doit demander l'argent à la première. Mais la première, elle gère ça, en fait. Elle gère ça avec la deuxième et la troisième qui sont ses copines. Et elle le voit comme une sorte de gosse que l'on donne des sous pour qu'il aille faire des bêtises, qu'il foute la paix pendant qu'elle s'occupe des trucs importants. Et lui-même ne prenait pratiquement pas de décision. C'est sa première femme qui était devenue très grosse. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les nouvelles étaient jeunes et minces, et les anciennes étaient de plus en plus volumineuses. Il y avait une sorte... les poupées russes. mais, de fait, le pouvoir appartenait à ces femmes. D'ailleurs, je fais un rapprochement étrange, mais je me rappelle quand il y avait l'affaire Ben Ali en Tunisie, tout d'un coup, on a dit, mais c'est sa femme qui fait tous les trucs derrière. Je connaissais pas la femme de Ben Ali, mais visiblement, voilà un garçon qui avait l'air dépassé par sa compagne, qui, du coup, avait organisé un système derrière. Je connais pas bien sur ce cas-là. Mais en tout cas, ce que j'ai vu en Afrique, dans le petit village qui était à fond, alors là, dans la jungle, ça ressemblait au truc de Tarzan. Il n'y avait pas de route, pas de police. On peut tuer son prochain, c'était super. On peut tuer aussi. Mais ce que j'ai vu, c'est une société matriarcale, non assumée, mais réelle. Et je crois qu'il y a un équilibre des énergies. C'est pour ça que les Asiatiques ont trouvé cette formule formidable, c'est yin-yang. C'est-à-dire quand ça va trop dans un sens, ça va y avoir un rééquilibrage et ça ne pourra jamais aller totalement dans un sens. Donc, tout à l'heure, je vous disais, la société japonaise va à fond dans l'écrasement des femmes. Les femmes écrase plus tard. Et là, le système africain a l'air d'être un système où le mec a 10 femmes, donc ultra-machiste, mais elle se récupère, elle a les sous, et c'est elle qui prend les décisions. Donc, il y a un rééquilibrage qui est fait. Mais actuellement, il y a une sorte de crispation, de peur que les femmes prennent le pouvoir, et cette crispation peut donner des choses terribles, voire des guerres. Et on parle de guerres de religion, moi je crois que c'est des guerres de perception de la place de la femme, mais ça peut être... tout aussi terrible que des guerres de religion. D'ailleurs, sur les religions, je fais une petite parenthèse, les premières religions primitives étaient des religions à prêtresse. Et notamment ici, en Gaule, il y avait beaucoup de systèmes avec des... D'ailleurs, à Bordeaux, je pense, il y avait... Non, pas à Bordeaux, dans la zone des Landes, il y avait un système de femmes qui gouvernaient. Enfin, je vais revenir après. Bon, en tout cas, les systèmes anciens étaient systèmes féminins. Et c'est pour ça que le catholicisme, quand il s'est installé avec l'Empire romain, ils se sont retrouvés à faire la guerre à beaucoup de cultes. C'est devenu les cultes de la Vierge Noire, c'est-à-dire des cultes de la femme féconde. Ouais, culte de la Vierge Noire. Je sais pas. Bon, c'est... Je vais partir. Mais bon, des cultes des femmes. Et il y a eu une sorte de rivalité entre les femmes et les hommes au niveau de la religion qui s'exprime notamment, j'en ai parlé dans d'autres livres, par le fait que du coup les prêtres mettent des robes et le symbole de la tiare du pape est quand même un symbole qui peut évoquer un sexe féminin, mais ça je pousse un peu. mais il y a toute une idée que les hommes récupèrent un pouvoir qui était le pouvoir de sorcellerie, parce qu'après, il y a eu toutes ces guerres contre les sorcières. C'est en fait, c'est le culte contre la spiritualité qui appartient aux femmes. c'est la prise du pouvoir des hommes. Et là, on en arrive à le pape, les prêtres après qui ne doivent pas se marier, puis les prêtres qui doivent faire vœu de chasteté, c'est-à-dire des hommes déconnectés du monde des femmes. C'est un sens d'évolution de la religion parce qu'ils ont saisi la rivalité qu'il peut y avoir. Mais l'une des raisons qui explique que les femmes avaient le pouvoir spirituel, c'est aussi que tout simplement, quand on regarde la préhistoire, 10 minutes, bon, moi je résume, et donc à la fin, ils meurent tous. donc c'est que les femmes restaient dans la caverne, donc avaient développé le langage, avaient développé la psychologie, et restaient près du feu à préparer la nourriture, à s'occuper des enfants, qui était un milieu plus propice à développer la spiritualité, alors que les hommes étaient dehors en train de chasser le mammouth. À l'époque, c'était en plus plus grand, comme retour à la case départ. Et donc, en chassant, ils ont développé notamment le sens de l'orientation, que n'ont pas les femmes, comme vous le savez tous. Donc ils ont développé le sens de l'orientation, le sens de la stratégie, le sens du combat. Ils ont développé d'autres facteurs. Et les femmes ont développé le langage, la psychologie, l'éducation et la spiritualité. Et après, quand les hommes ont aperçu qu'il y avait ce pouvoir qui leur échappait, il y a eu progressivement, au niveau de l'Antiquité, et je pense surtout au niveau du développement du christianisme, qui a installé un système de hiérarchie. Et le système de hiérarchie du christianisme étant copié sur le système de l'Empire romain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à Rome, à savoir que le pape remplace l'empereur, remplace César. Et c'est pour ça que l'Empire romain, qui est détruit en l'an 500 sous forme militaire et politique, se régénère sous forme spirituelle, avec une efficacité encore plus forte, parce que c'est l'efficacité de la religion. Bon, et je vous remercie d'être là, et on me fait signe que ça va s'arrêter, donc j'arrête là. Merci.
Merci.